Retrouvez l'ANEFA Charente pour son émission mensuelle sur RDC, l'ANEFA Charente, spécialiste de l'emploi et de la formation en agriculture.
Eh bien voilà, vous êtes donc sur RDC et nous avons deux invités dans les studios et je suis très très heureux de la retrouver parce que, eh bien, passage du flambeau de notre ami La Voix du Soleil de notre ami Bruno du mardi matin, elle nous revient, Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jean-Marc, bonjour.
Comment
à
ça
tous.
Va Sandrine ce matin?
Bien, et puis justement comme tu le soulignais, Bruno n'est pas parmi nous, mais s'il nous écoute, on a une très grosse pensée, on lui fait de gros bisous.
Une très très grosse pensée, on lui fait des gros bisous. Il n'y a pas de souci parce que je sais qu'il écoute en plus. Il a dit, vous serez noté ce matin. Voilà. Donc, Sandrine, bienvenue donc en ce jeudi matin.
Merci.
Tout nouveaux horaires pour cette émission bien avec l'ANEFA Charente. Et bien sûr, nous allons parler d'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons un invité dans les studios qui s'appelle M. Julien Massé, viticulteur à Rouillac.
Bonjour Julien.
Bonjour Julien.
Alors oui, il est viticulteur à Rouillac, Julien Massé, exploitant viticole, 40 hectares on peut dire de surface
de
vigne,
à peu près,
et de céréales 70 hectares.
70 à peu près.
Ok, d'accord. Alors on est là justement pour que tu puisses nous parler de ton parcours, de ton métier, ce que tu mets en place sur ton exploitation, par rapport à l'environnement, et justement, est-ce que tu peux te décrire et te présenter à nos auditeurs de RDC?
Oui, ben, y a pas de souci. Alors voilà, je suis un homme de 32 ans, voilà, papa depuis 3 ans d'une petite fille, et puis marié à ma femme qui travaille aussi dans le secteur agricole, elle est conseillère de gestion. Voilà, et puis je travaille avec mes parents sur une entreprise familiale depuis 10 ans maintenant. Voilà, ça remonte, hein,
ça remonte.
Ça commence à
faire.
Ouais.
Voilà, quoi dire, une fibre un peu écolo, sans non plus exagérer, mais voilà, l'envie de faire les choses bien et voilà, de pouvoir être pleinement intégré dans l'environnement.
D'accord. Alors, quelles sont les études que tu as suivies?
Alors moi, j'ai fait des études. Alors j'ai longtemps hésité avant de faire l'agriculture. C'était pas vraiment une vocation au départ, comme ça peut être pour certains. Parce que j'ai plein d'autres passions, j'ai longtemps hésité et puis finalement je suis allé là-dessus. Des études en alternance d'un bout à l'autre en maison familiale et puis voilà, je suis allé jusqu'au BTS, BTS AXE.
Donc, maison familiale en Charente?
En Charente, 100% Charente. Donc à Jarnac, moi à Triac plus précisément pour la partie viticole. Et après un bac pro en viticole et un BTS plus orienté gestion d'entreprise.
À IREO alors?
À l'IREO Richemont.
À Cherve-Richemont, d'accord, ça. Ok. Donc quand tu disais que ce n'était pas une vocation, tu baignes quand même dans le secteur agricole depuis tout petit. L'historique de la famille, vous êtes agriculteur depuis combien de temps?
Oula, alors ça fait plusieurs générations et comme beaucoup de viticulteurs de fin bois, donc on a une famille qui est arrivée dans les années 50, un peu plus même dans les années 40. Et donc il y a beaucoup de viticulteurs de fin bois qui sont issus de Vendée, de Sèvres, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître. Voilà, donc une ferme d'élevage à l'origine pour mes grands-parents, puis qui est revenue à la viticulture au fur et à mesure où la filière s'est redéveloppée.
Alors élevage, c'était quel type d'élevage?
Des vaches au départ, et puis petit à petit c'est basculé dans les années 80 sur de l'élevage caprin. Et puis voilà, petit à petit un peu de viticulture, et puis mon père s'est installé dans en 85 de mémoire. Voilà, toujours avec un peu de chèvres, un peu de céréales et puis un petit peu de vigne, très très peu. Et puis voilà, l'exploitation a évolué pour venir au début des années 2000 à s'orienter plus sur la partie céréales avec un arrêt de l'élevage. Voilà, par vocation, parce que mon père n'était pas vraiment éleveur dans l'âme. Et puis voilà, l'élevage était devenu trop petit et c'était difficile de continuer. L'exploitation s'est séparée entre mon père et mon oncle. Il y en a un qui est parti sur la partie culture et l'autre s'est orienté sur l'élevage. Et puis voilà, avec mon arrivée, une nouvelle orientation depuis 10 ans sur la partie viticole pour arriver aujourd'hui à une exploitation presque 100% viticole.
Donc c'est toi qui as insufflé l'orientation viticole. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette orientation?
Ben, mon père avait déjà de la vigne, mais c'est vraiment voilà, c'est ce qui m'a plu vraiment le plus. Et j'ai orienté mes études là-dessus. Ce côté travail manuel, pas passer son temps toujours enfermé sur un tracteur. Et surtout, je ne suis pas du tout mécanicien. Donc dès qu'il s'agit de faire un peu de mécanique et d'entretien de tracteur, là, c'est vraiment pas mes jours. Donc voilà,
eh oui.
Les céréales, c'est vraiment voilà,
d'accord.
Faut être bricolaire.
Oui, il faut être bricoleur, il faut être passionné par le machinisme, en effet. Alors, sur ton exploitation, tu as combien de salariés permanents ?
Alors, j'ai deux salariés permanents, plus on adhère à deux groupements d'employeurs différents avec des voisins. Donc, c'est deux groupements d'employeurs à deux personnes à chaque fois. Donc, voilà, donc deux salariés en plus qui sont partagés.
Ah,
donc,
oui,
ça fait quatre personnes pour à peu près trois équivalents temps plein.
C'est-à-dire qu'avec un autre viticulteur, vous avez créé un groupement d'employeurs.
Voilà. Donc, j'ai un salarié depuis 20 ans sur un groupement d'employeurs à deux, donc moi et puis un voisin. Donc, le salarié fait à peu près 60-40 en termes de répartition horaire.
Mm-hmm.
Et depuis maintenant 6 ans, on a créé un deuxième avec un deuxième voisin pour à peu près la même chose.
Ah, c'est intéressant.
Ça fait deux personnes et à peu près un temps plein pour nous.
D'accord.
Plus, on a deux salariés permanents sur l'exploitation.
C'est-à-dire que ces deux salariés partagés font un 35 heures sur les deux exploitations.
Voilà. Eux, chaque salarié a son temps plein réparti sur deux exploitations.
Et ils se partagent les tâches chaque semaine ou c'est une semaine
Ils fonctionnent, les deux groupements fonctionnent très différemment. Donc avec un voisin qui, lui, n'est pas viticulteur, c'est-à-dire qu'il a un autre métier, c'est le salarié qui fait tout, sauf le travail manuel, qui fait appel à des prestataires extérieurs. Donc en fait, j'ai un tiers du salarié, moi, toute la période hivernale, et à partir du mois d'avril, le salarié, il part, il revient que le mois de décembre l'année suivante.
D'accord.
Et alors que l'autre, c'est deux tiers, un tiers aussi, mais c'est deux semaines chez moi, une semaine chez le voisin.
Ok.
On alterne.
D'accord.
Ça.
D'accord. C'est intéressant comme expérience, justement, s'il y a des agriculteurs qui nous entendent, ils ont la possibilité de créer un groupement d'employeurs avec un autre agriculteur et de pouvoir partager les compétences d'un salarié. Ensuite, il faut s'entendre évidemment sur les tâches à accomplir, bien définir le temps aussi, parce que si tu as besoin à un moment donné de la personne sur un temps donné et qu'il est employé chez l'autre agriculteur, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, il faut vraiment poser les choses dès le départ.
Oui, il faut poser dès le départ, il faut avoir la même philosophie un peu sur le fonctionnement du salarié, et puis voilà, un peu de souplesse, donc il faut être assez proche.
Ce qui fait que le recrutement se fait à deux.
Eh oui.
Et d'accord. Oui.
Donc alors le groupement d'employeurs, il y a un responsable, il y a un président, et puis si vraiment il y a quelque chose à trancher, c'est le président qui tranche, mais c'est quand même mieux d'être à deux.
Oui.
Dans les petites structures,
c'est plus facile.
C'est un peu comme une CUMA, quoi, en fait.
Oui, voilà, mais pour un salarié. Voilà.
Pour un salarié.
Là, on n'est pas sûr de la location de machines.
Oui. Mécanique,
ouais. Ouais. Très bien. Et alors, au niveau des salariés saisonniers, tu en emploies combien sur toute l'année ?
Généralement, on a besoin de 3 à 4 personnes l'hiver pour le tirage de bois, donc de début décembre jusqu'à fin mars. Et puis...
Pour le tirage ?
Oui, que pour le tirage.
D'accord.
Voilà, et puis, parce que toute la partie taille et attachage, c'est une volonté de notre part, elle est faite par les personnels en CDI.
Mm-hmm.
Donc ça nous permet d'être sûr d'une année sur l'autre et de pouvoir former aussi le personnel un peu mieux, à notre façon. Et puis après, en saisonnier, on a besoin de renfort au moment des relevages, donc c'est-à-dire à peu près 3 semaines au mois de juin. Une dizaine de personnes.
Ça se passe bien ? Ce sont des gens qui reviennent tout le temps ?
Alors, on a une base de 5 à 6 retraités qui sont fidèles au poste depuis des années. Et je dirais même qu'ils seraient vexés si on ne les appelait pas.
D'accord.
Voilà. Et puis, on essaie de maintenir cette petite ambiance un peu familiale et sympathique. Et puis, après, on a toujours besoin de 4-5 personnes en plus. Et on appelle la NEFA.
Et ben voilà, vous appelez la NEFA et c'est vrai qu'on est là pour vous servir à ce niveau-là, à diffuser les offres d'emploi sur notre site qui est www.lagriculture-recrute.com. Non seulement pour les employeurs, mais aussi pour les candidats, vous pouvez consulter aussi les offres sur notre site.
Et sur le site d'RDC, parce qu'on est partenaire avec la NEFA, donc automatiquement, ils cliquent sur la case partenaire, et aussitôt, ils ont la NEFA, ils cliquent sur les offres d'emploi, ils ont les offres d'emploi.
Exactement. Et merci Jean-Marc pour ton travail.
Mais de rien, c'est avec plaisir. Voilà. Alors, nous allons partir en musique, un petit morceau.
Si
allez,
tu veux.
Allez, allons-y. Et on se retrouve juste après, bien sûr, avec Julien Massé pour la suite de cette émission.
For ages, couldn't think of a better time.
Voilà, c'était Beautiful sur RDC 93.4, 92.5, toujours avec Sandrine et Julien, bien sûr, pour cette interview sur la viticulture ce matin. Et Julien, je voudrais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de fins bois. Pouvez-vous me parler un petit peu de ce que c'est les fins bois ?
Alors, les fins bois, oui, c'est un des 6 crus de l'appellation Cognac. Donc, voilà, oui. Voilà, on peut les classer dans l'ordre du cru le plus réputé au moins réputé. Donc il y a la grande champagne, la petite champagne, les borderies, les fins bois, les bons bois, et puis on a les bois ordinaires qui sont essentiellement sur la côte atlantique et les îles. Donc voilà, c'est 6 crus qui se distinguent par principalement c'est la nature du sol.
La nature du sol.
On est sur des sols de grande et petite champagne, comme leur nom l'indique, les mêmes sols qu'en champagne. Donc c'est des sols très crayeux, voilà, vous prenez une pierre, ça s'effrite, c'est très très calcaire. Et après on est sur des sols un peu plus argileux sur les fins bois, donc c'est plus des petits cailloux vraiment bien durs, avec des sols beaucoup moins profonds. Voilà, il y a 20-30 cm de terre au mieux, et puis après plus...
Des et sols... les borderies ?
Alors les borderies, c'est un sol, c'est un peu intermédiaire en fait, avec des silex par endroit et un terrain très argileux, voilà, qui donne des œufs de vie fines avec on a tendance à dire des petits goûts de violette. Alors j'ai un petit peu du mal personnellement à le retrouver, mais c'est la typicité un peu traditionnelle qu'on dit pour les borderies. Donc c'est qui est le cru le plus petit par contre, voilà, qui est un petit peu au nord de Cognac.
Et voilà, donc oui, c'est vers Lousac-Saint-André, tout ça, les borderies.
Exactement.
Voilà. J'avais cru.
Ah, exactement. Voilà. Et les beaux bois.
Alors bon bois,
pardon.
C'est un peu comme les fins bois avec des terres un peu moins riches. Ça fait des eaux de vie qui généralement vieillissent très rapidement. Donc ça va pour faire des cognacs jeunes. C'est un peu plus difficile en temps de garde. Voilà, tout ce qui est vraiment les très très vieux cognacs, quand vous achetez un très vieux cognac, c'est souvent de la grande champagne et de la petite champagne. Bon, il existe aussi un mélange des deux qu'on appelle la fine champagne, si vous voyez. C'est voilà, oui. Un mélange de grande et petite champagne. Voilà. Alors que les fins bois sont utilisés pour tout ce qui est cognac, VSOP, VS. Voilà. Au bout de 4 ans, on a des eaux de vie très florales, très fruitées.
D'accord. Donc le fin bois apporte des eaux de vie florales, voilà. Fruitées. La grande et la petite champagne apportent des eaux de vie.
C'est plus de la finesse et de la puissance. Et c'est vraiment des eaux de vie qui sont faites pour être gardées. Mm-hmm. C'est, au bout de 10 ans, là, elles expriment vraiment leur qualité.
Leur qualité. Les borderies qui sont l'intermédiaire justement par rapport.
Alors, c'est des vignes qui peuvent se garder. Après, quand on regarde vraiment les très très vieux cognacs, généralement, il n'y en a pas forcément.
Voilà. D'accord.
donc c'est des eaux de vie florales, voilà, avec de très bon SOP, de bon XO aussi. Mais, okay. C'est un peu un cru différent.
Et les pinots se font sur tous ces aspects.
Alors les pinots, il y a l'ensemble de l'appellation cognac, on peut faire du pinot, mais il n'y a pas de différenciation de cru pour le pinot. Mm-hmm. Voilà, il n'y a pas de pinot, de grande champagne, petite champagne. Mm-hmm. On peut en faire partout, mais il n'y a pas de différenciation.
D'accord.
Okay. Très bien, mais merci.
Merci pour ces précisions techniques.
C'est très intéressant, très intéressant.
C'est vrai qu'on a tendance à s'attacher au sol pour les vins, comme voilà le Bordeaux, oui. etc. Et on n'a pas justement cette connaissance par rapport au cognac, alors qu'en fait, ça a son importance.
Oui, ça a son importance. C'est vrai qu'on ne s'est pas forcément mis en avant au niveau des grandes marques. Un peu plus la part des viticulteurs, quand vous achetez en direct, ils vous en parleront plus facilement. Et vu que c'est des marchés, souvent le cognac va à l'export... entre un grand champagne et un fin bois, quand on est américain à Los Angeles, ça ne parle pas forcément. Quoi.
Oui, c'est ça, il faut être éduqué.
C'est pas noté sur les bouteilles. Non, je comprends. Eh bien, merci de ce renseignement, Julien, parce que c'était très intéressant.
Oui.
Alors, nous continuons donc cette émission par le parcours de Julien. Et en termes d'environnement, nous entendons tous et son contraire sur les médias qui ne sont guère en faveur des agriculteurs. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
C'est vrai que voilà, y a beaucoup de monde qui aime parler d'agriculture, et notamment des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur l'agriculture. Et il y a une petite image d'Épinal qui s'est faite par les gens qui avaient leurs grands-parents autrefois sur l'agriculture et qui se rêvent peut-être une agriculture d'autrefois, mais du coup qui sont un petit peu déçus quand ils découvrent aujourd'hui que c'est très mécanisé, ça s'est énormément modernisé. Dire qu'on est plus loin de l'environnement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Quand je vois ce que faisait mon grand-père, j'ai l'impression qu'au niveau de l'environnement, on s'est plutôt amélioré. Donc, c'est vrai que voilà, y a cette distance qu'on n'a peut-être pas su expliquer. Les agriculteurs sont restés la tête dans le guidon sans penser à expliquer aux gens ce qu'ils faisaient. Et il y a une petite distance qui s'est créée, ouais, c'est sûr.
Puis la distance vient du fait aussi, comme tu l'as souligné, de plus en plus. Avant, on avait quelqu'un de notre famille qui était dans l'agriculture, aujourd'hui de moins en moins. Donc c'est pour ça aussi que la distance se crée aussi par ce lien familial qui n'est plus avec quelqu'un qui serait dans l'agriculture.
Oui, il y a ça, et puis voilà, le fait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs tout court, donc tout le monde ne connaît pas forcément un agriculteur, donc c'est plus facile de parler de l'autre quand on ne le connaît pas, et de critiquer que, voilà. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les agriculteurs, mais par contre, les agriculteurs qu'ils connaissent personnellement sont des gens bien.
Du coup, sur ton exploitation, qu'est-ce que tu as mis en place ?
Alors, nous, on fait plein de petites choses. Notamment, moi, je voulais un retour de l'herbe et de couverts végétaux. Voilà, donc même dans les vignes, je sème des radis, de la veste, du seigle.
Dans ta vigne, tu sèmes des radis ?
Oui.
Qu'est-ce que tu mets d'autre ?
De la veste, du seigle.
Qu'est-ce que c'est la veste ?
Alors la veste, c'est une légumineuse. Alors c'est une plante, comme sa famille a une particularité, c'est qu'elle capte l'azote qui est dans l'air, parce que l'air que l'on respire est composé de, je crois, de mémoire, plus de 70% d'azote. Mm-hmm. Et elle capte cet azote pour l'enfouir dans le sol, elle le stocke dans ses racines. Et en fait, la plante par elle-même est un engrais naturel, parce que quand on la détruit, elle libère l'azote qui est dans ses racines, qui est un élément important, voire vital pour toutes les plantes. D'accord. Donc en fait, c'est une méthode biologique d'amélioration du sol. En fait, on apporte de la matière organique, et puis par ces plantes-là, on peut apporter de l'azote. Les radis stockent, eux, pas mal de potassium. Donc ça permet de concentrer le sol. Voilà, une fois détruit, il restitue, et on fertilise la vigne naturellement.
Alors, radis, vesse, quoi d'autre ?
L'avoine.
De l'avoine ?
Et du seigle.
Alors ça apporte quoi aussi ?
Alors le seigle permet d'avoir des tiges, parce que la vesse sinon est une plante rampante, donc là elle s'accroche au seigle qui sert de tuteur. L'avoine, par ses racines, elle a une particularité, c'est qu'elle empêche les plantes, tout ce qui est ce qu'on appelle nous les agriculteurs les mauvaises herbes, de pousser. Donc là où vous mettez de l'avoine, il n'y a que l'avoine.
Ah, c'est
très intéressant, ça aussi.
Oui.
Ouais.
Donc ça permet, l'hiver, pendant qu'on a mis l'avoine et les autres plantes que l'on a choisies, ça permet de freiner le reste.
Du coup, tu n'as plus besoin, entre guillemets, d'avoir recours à la chimie.
Voilà.
Puisque ces pratiques te permettent de pallier les mauvaises herbes.
C'est ça.
Mais alors, quand tu dis que tu les installes dans tes vignes, tu les installes où dans tes vignes ?
Dans le rang, entre chaque rang de vigne. J'ai un tout petit semoir à céréales qu'utilisait mon grand-père qui passe dans les rangs de vignes. Donc je sème avec, avec cet outil et ça me permet de, voilà, de semer mon milieu de rang de vigne.
D'accord, mais je t'en prie.
Et pour récolter, comment ça se passe du coup, puisque c'est dans les rangs de vignes, ça doit pas être facile.
Alors du coup, c'est pas récolté. Hein.
C'est pas récolté, d'accord.
Non, c'est pas l'objectif. Donc je sème généralement fin août, histoire d'avoir de l'herbe pour les vendanges et que la machine puisse bien se tenir si les vendanges sont humides. Et puis je laisse tout l'hiver mon sol couvert, parce que de toute manière, la vigne est endormie, donc il n'y a pas de concurrence. Et puis après, je détruis courant mai, généralement, à partir du moment où la vigne commence à pousser. Donc, je suis couvert une grosse partie de l'année. Et après, comme je disais, sur les fins bois, on est sur des sols très superficiels, donc qui sont très sensibles à la sécheresse. Donc, la période où la vigne a besoin d'eau, qui est généralement juillet-août, je me débrouille pour qu'il n'y ait pas de concurrence.
D'accord. Et cette idée, t'es venue comment ?
Alors comment ? Tout simplement, parce qu'en discutant avec un copain qui est... en agriculture biologique, qui fait ça depuis un certain temps, et j'ai trouvé l'idée vraiment, vraiment géniale, parce que c'est des choses que j'avais pas forcément connaissance avant, et puis voilà, j'ai copié, c'est pas bien, mais...
Ah non, mais c'est très bien, c'est justement, très bien. Si, tu t'es enrichi de l'expérience d'une autre personne.
Et puis j'ai fait pas mal d'essais pour une entreprise qui est productrice de semences, donc pour créer les mélanges, on a essayé plein de choses chez moi, et du coup, les mélanges étant créés, j'y ai contribué, donc maintenant, je me fournis directement.
Oh, c'est bien. Et depuis quand tu fais ça ?
Ça fait la cinquième année consécutive où la totalité de l'exploitation est faite.
Et alors, qu'est-ce que tu vois en plus sur ton exploitation par rapport à...
Alors, beaucoup plus de gibier, ça c'est sûr. Et les chasseurs encouragent dans beaucoup de secteurs à faire ce genre de couvert. Puis au printemps, plein de petits insectes, des abeilles, des bourdons. Ça bourdonne de partout, donc c'est super. Quand on se promène, souvent c'est le travail manuel dans les vignes. Et voilà, il y a plein de petites choses, des des perdreaux, ça se promène de partout.
Est-ce que tu vois une amélioration du sol aussi, la qualité de ton sol ?
Alors pour le sol, je dirais même que c'est visuel. Il n'y a même pas besoin d'analyse de terre. Le fait de passer le décompacteur quand on détruit les couverts, on voit que le sol est souple, qu'il y a énormément de petites racines, de matière organique, et des vers de terre, des petits insectes, il y a plein de choses. C'est flagrant.
Ça t'a permis de réduire par rapport au traitement chimique ? Ça t'a permis de faire des économies en ce sens ?
Alors, on met moins d'engrais, on en met encore un petit peu pour réajuster et être sûr que la vigne a les nutriments qu'elle a besoin. Après, pour l'instant, je n'en mettais pas avant au milieu des rangs, donc ça ne m'a pas fait réduire beaucoup. Mm-hmm. Mais voilà, ça permet de faire un climat un peu plus favorable que 100% de chimique sur un terrain nu. J'utilise encore des désherbants chimiques pour la partie entre chaque pied de vigne, parce que là, on pourrait implanter de l'herbe, le plus difficile, c'est pour aller l'enlever. Donc j'ai pas trouvé encore la solution. Bon, j'espère que d'ici l'année prochaine, ce sera terminé pour cette partie-là aussi.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, l'herbe entre tes rangs de vignes est haute.
Oui, il y a beaucoup de voisins qui essaient de le faire, mais voilà, il y a un petit blocage, ils préfèrent tondre une ou deux fois dans l'hiver. Moi justement, je laisse faire. Donc au mois de mars, on est à 1,50 m de haut. Donc quand on voit de loin, on se demande ce que c'est cette forêt vierge. J'ai même, pour la petite histoire, une propriétaire d'une de mes vignes que j'ai en location qui m'a appelé pour me demander si ça allait, si j'avais pas eu un problème de santé, parce qu'elle s'inquiétait de l'état de la vigne. Je dis non, faut pas s'inquiéter, c'est contrôlé, c'est voulu. Et oui, ça fait un peu forêt vierge, mais bon, voilà, retour à la nature. Du moment que il y a 50 cm de chaque côté du rang de vigne pour que la vigne, elle, ne soit pas touchée, le milieu du rang, après tout.
Et alors justement, est-ce que ça suscite pas des curiosités de ton voisinage, de tes aussi confrères viticulteurs qui viennent te voir pour savoir...
Il y a pas mal de curieux, c'est sûr, qui me posent des questions. Alors il y en a qui me disent, je sais pas, je comprends l'idée, mais j'ai un petit blocage quand même à avoir de l'herbe comme ça. Mais on fait ce qu'il faut en tout cas pour communiquer. Il y a souvent des réunions et des groupes qui viennent voir à différentes périodes, qui suivent.
Même des... Donc tu fais des réunions sur ton exploitation?
Oui, il y a des coopératives qui me demandent à faire des réunions sur l'exploitation, voilà, pour venir voir, essayer, voir ce que ça donne. On a fait venir plusieurs techniciens, de grands spécialistes de ce qui est agriculture de conservation. Voilà, l'an dernier, on a fait une, ce qu'on appelle une fosse pédologique. C'est-à-dire, avec un tractopelle, on a creusé un trou d'un mètre cinquante de profondeur dans le milieu d'un rang de vigne, justement pour étudier qu'est-ce qu'il y a dessous.
Voilà, d'accord. Donc, il y a des résultats?
C'est la cinquième année, c'était la quatrième année l'an dernier, de couvert. Donc, il y a une amélioration du sol, mais bon, c'est vraiment du long terme. Mm. Donc, voilà, petit à petit, on s'améliore.
Eh bien, en effet, oui. Et puis... Donc zéro pesticide. Enfin, vous mettez un peu de...
Un petit peu de désherbant sous les rangs de vigne, c'est-à-dire sur à peu près 20% oui. de la surface.
Et vous traitez la vigne de moins en moins, du coup.
Aussi. Mais après, ce n'est pas lié nécessairement au couvert. C'est sur d'autres adaptations, mais voilà, on est en cours de réduction.
Parfait. Et donc, vous êtes président des jeunes agriculteurs, c'est ça?
Oui.
Depuis combien de temps?
Alors, ça fait bientôt 2 ans hein, que je suis président du syndicat des jeunes agriculteurs. Donc, c'est un syndicat d'agriculteurs, mais désolé, réservé aux moins de 35 ans. Alors, pour les autres, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, donc, il y a pour but un petit peu d'animer, au niveau de ces sections locales, le monde rural, par des fêtes voilà, que vous connaissez pour certains, comme la nuit du cognac, la nuit des fins bois, il y a la fête de la terre, il y a plein de petites animations tout au long de l'année. Et puis après, au niveau départemental, c'est un rôle un peu plus politique, voilà, de représentation de la vie des jeunes dans différentes instances. Voilà, porter un avis de progrès.
Alors, un jeune qui vient voir ce syndicat, ça lui apporte quoi?
Ça lui apporte quoi? Qu'il peut apporter son avis et faire évoluer les choses dans le sens qu'il le pense. Voilà, parce que les gens qui ne donnent pas leur avis et qui se plaignent de loin... Ça fait pas trop avancer les différents problèmes. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas y voir une réponse à un besoin personnel. C'est vraiment voilà, l'envie de se mettre à plusieurs, se mettre ensemble et réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux demain. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut proposer surtout. Voilà, c'est vraiment réfléchir ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut faire.
D'accord. C'est ça l'idée. Bon, mais c'est bien.
C'est bien.
Petite pause musicale?
Pas de souci, Sandrine. Allez, on repart en musique et on se retrouve juste après Sandrine. Merci.
I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. Every cab that goes by and the strangers at every crossroad, in every bar, and I see you in every cab that goes by and the strangers at every crossroad, in every bar.
À CIU sur RDC 93.4, 92.5, nous poursuivons cette émission avec Sandrine et Julien. Et Sandrine, bien sûr, tu voulais poser une question à Julien.
Eh bien oui, justement Julien, tu t'es inscrit à Terre et des Ailes. Tu as remarqué depuis quelques temps qu'il y a de moins en moins de volatiles dans les campagnes. Comment tu l'expliques ?
Mais c'est avant tout un problème d'habitat, selon moi. C'est vrai qu'on met en permanence, les médias mettent en permanence le débat sur les pesticides. Et moi, ça me pose un peu problème, parce qu'en fait, à force de vouloir parler toujours du même sujet, on évite le vrai sujet. Et honnêtement, c'est pas un insecticide qui tue les oiseaux. C'est un problème d'habitat. Et il y a de moins en moins de haies. Il y a de moins, par exemple, les hirondelles, on n'a plus de granges avec là où il y avait les vaches avant. Il n'y a plus d'endroits pour nicher, donc forcément. Il y a moins d'hirondelles. Et puis voilà, c'est quand il n'y a pas de haies au bout d'un champ, difficile pour les oiseaux de se poser pour aller manger les petits insectes qu'il y a dans la parcelle. Voilà, c'est vraiment un habitat général qui est dégradé et qu'il faut arriver à reconstruire. Voilà, après, alors j'aurais pas de chiffres, je suis pas ornithologue. Moi, voilà, je me suis acheté un petit livret pour essayer de reconnaître les oiseaux, mais honnêtement, bon, je suis.
Alors, Terre et des Ailes, c'est quoi en somme ?
Alors, Terre et des Ailes, c'est un petit programme de la LPO. Alors, c'est assez facile.
Alors, LPO, c'est quoi ?
Alors, c'est la Ligue de protection des oiseaux.
D'accord.
Voilà, c'est une ONG qui protège un peu l'environnement. Et voilà, ils ont mis en place ce petit programme. Alors, chacun agriculteur peut s'inscrire. Il y a quelques petites infos à rentrer, notamment voilà, combien on a de haies sur l'exploitation, est-ce qu'on met en place des couverts, plein de petites choses. Et puis, au fur et à mesure, ben, on peut aller mettre à jour nos infos sur le site et ça nous donne un taux de progression. En fait, voilà, qu'est-ce qu'on a fait en plus pour la nature, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. C'est juste voilà, essayer de se mesurer et voir. Et pouvoir dire, regardez, moi je fais des efforts et j'ai fait ça.
Donc toi, tu le solutionnerais par un habitat ?
Oui.
Replanter des haies ?
Replanter des haies, par exemple. Refaire des couverts, comme j'ai dit, dans les vignes, c'est autre chose. Voilà, plus il y a d'insectes, plus il y a de nourriture pour les oiseaux. Planter voilà, un petit bout de champ qui sert à rien, on lui replante 3-4 arbres fruitiers. Et même si on veut pas des fruits, c'est pas grave, les oiseaux, ils auront à manger, les petits insectes, ils vont les manger. Après, bon, s'il y a un ou deux voisins qui veulent des cerises, ils font ce qu'ils veulent.
D'accord. Toi, sur ton exploitation, t'aimerais faire venir quel type de volatiles ?
Bah alors, j'ai pas d'idée précise. Voilà, on a juste envie d'essayer une chose, c'est d'essayer de remettre des nichoirs à chauves-souris. Voilà. Alors, tout le monde rigole quand je dis ça. Mais voilà, j'ai des voisins qui ont essayé. Et puis, c'est pas mal. Après, l'impact que ça a, en fait, la chauve-souris... Ça mange à peu près 100 poids en insectes par semaine en saison d'été. Et on sait que voilà, en viticulture, on est obligé de faire des fois des insecticides. Donc si on peut limiter la présence d'insectes par voilà, juste une présence de chauve-souris, bah, peut-être ça, plus une ou deux autres petites choses, peuvent peut-être enlever un insecticide, et c'est toujours un gain de plus pour l'environnement. Mmh. Voilà. Après, c'est des choses qui ne sont pas mesurables, pas quantifiables. Voilà, c'est...
Donc, il n'y a pas de retour d'expérience de personnes qui auraient mis ça en place sur leur exploitation viticole pour que tu puisses avoir un retour et toi l'appliquer à ton tour sur ton exploitation. Donc là, tu y vas, tu navigues à flou.
Ah oui, complètement. C'est, voilà, voilà, c'est, voilà, y a pas de retour chiffré, il n'y a pas... Voilà, on se dit que c'est bien pour l'environnement, ça ne peut être que mieux, ça n'engage pas à grand chose non plus, donc pourquoi pas.
D'accord. Tous tes renseignements comme ça concernant la biologie, tu les prends où?
Alors sur internet, sur pas mal de revues viticoles qui souvent parlent, voilà, des petites méthodes alternatives, et de plus en plus, donc ça c'est bien. Et puis après, voilà, en copiant des voisins, comme je disais, pour les couverts qui sont en bio, en, voilà, en regardant ce qui se passe pas mal autour. Et puis il y a de plus en plus de programmes qui sont lancés soit par les coopératives ou des organismes techniques, voilà, pour nous faire découvrir les luttes alternatives.
Parce que ça vient pas de ta formation. Ces connaissances.
Pas forcément. Alors il faut une base de connaissances vraiment agronomiques et chimiques du sol pour savoir comment ça fonctionne. Après l'application, on l'a pas forcément.
Donc quelque part, c'est pas suffisamment abordé dans les formations qu'on propose?
Non. Il y a pas mal de choses. Alors, c'est un sentiment personnel. Il y a pas mal de choses d'aborder au niveau écologique, mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'écologie vue de loin. Et justement, pour faire de l'écologie, il faut revenir aux études, finalement, qui se faisaient avant et connaître bien ton sol, ton agronomie, comment ça fonctionne, que vouloir aborder, forcément, l'écologie en elle-même en cours, ça n'a pas grand intérêt. Parce que, voilà, on apprendra des grandes théories écologiques, mais on ne sait pas concrètement comment ça marche sur l'exploitation. Et c'est vraiment un retour à l'agronomie qu'on a besoin pour pouvoir comprendre ce qui se passe.
Alors, vous adhérez également à Défi Éco-Phyto. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est?
Alors, Défi Éco-Phyto, alors c'est un programme de l'État, du ministère de l'Agriculture, qui est en lien avec le plan Éco-Phyto, donc qui est pour la réduction de 50% des pesticides d'ici 2025. Donc voilà, le réseau Défi, en fait, c'est un réseau de 1900 fermes au niveau national qui ont été sélectionnées pour essayer de mettre ça justement en application. Donc l'objectif, c'est, voilà, tester certaines méthodes pour voir l'impact économique que ça peut avoir et voir jusqu'où on peut aller dans la réduction des pesticides sans qu'il y ait vraiment d'impact et voir ce qui est possible. Donc chaque année, voilà, nous on teste des petites choses, on a des formations, plusieurs réunions, et à chaque fin d'année, ils viennent prendre, enregistrer tout ce qui a été fait sur l'exploitation, aussi bien les traitements, le matériel, les investissements, la main d'œuvre, les temps de travaux, tout pour voir si ces 50% sont atteignables et comment et quelles conséquences. Voilà. En fait, on produit, on est ce qu'on appelle une ferme de référence, donc on produit des références sur est-ce que c'est applicable sur le terrain.
Quel type de test tu fais?
Des biocontrôles, notamment. Voilà, c'est des nouveaux produits naturels qui peuvent permettre de remplacer certains pesticides. Voilà, ça peut être des nouveaux matériels pour l'entretien du sol pour aller plus vite et un peu plus performant. Ça peut être notamment les couverts végétaux. Moi, c'était un des trucs les plus impactants qu'il y avait sur l'exploitation et vraiment où on a bossé dessus, parce qu'on ne peut pas bosser sur tous les sujets en même temps. C'est pour ça que c'est diversifié. Et puis en plus, il y a des fermes de référence sur à peu près toutes les cultures et toutes les productions. Donc voilà, moi, j'ai travaillé sur tout ce qui est produit de biocontrôle et entretien du sol, couverts végétaux.
Comment sont sélectionnées les entreprises par l'entreprise Défi Éco-Phyto?
Alors, Défi Éco-Phyto, il est géré au niveau local. Alors, il y a deux réseaux. Il y a un réseau au niveau national, c'est plus les coopératives, et un réseau qui est plus les chambres d'agriculture. Donc voilà, il y a deux réseaux distincts qui produisent des références, histoire de comparer les résultats de chacun. Et après, c'est chaque entreprise qui est sélectionnée dans ses adhérents, qu'ils voyaient, qui souhaitaient prendre des risques aussi, hein, de produire des références, et puis qui avait la fibre un peu expérimentation. Donc voilà, donc moi j'adhère au réseau coopérative. Voilà, je sais que la Chambre d'agriculture a un réseau aussi ferme viticole et ferme céréales. Donc voilà, ça a été choisi un peu, voilà.
Ok. Alors du coup, oui, quand tu dis prendre des risques, c'est-à-dire que si ça amoindrit le côté économique au niveau de ton exploitation, il n'y a pas de filet.
Ah non. Ah, ouais. On prend nos risques nous-mêmes. Là, il n'y a pas ni filet, ni... je pense que Les organismes comme la Chambre d'agriculture et les coopératives ont, eux, des subventions pour financer l'animation de ces groupes. Mais par contre, nous, on n'a rien. Donc, on prend nos risques nous-mêmes en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et justement, c'est un peu le but de mesurer le risque. Des fois, ça ne marche pas. Quelles conséquences ça peut avoir. Et c'est important de pouvoir mesurer ce risque.
Non, mais il faut des personnes comme vous, hein, de toute façon, des précurseurs pour effectivement faire avancer un petit peu la situation et votre production.
Si personne tente, on n'y arrivera pas.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tu as tout à fait raison. Alors, quels sont les volets indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution de l'utilisation des pesticides et des produits de biocontrôle ?
Alors, il y a un indicateur qui est vraiment technique, c'est ce qu'on appelle c'est l'indicateur de fréquence de traitement. En fait, à chaque traitement que l'on applique avec un produit à une dose, la dose légale, ça fait 1, ce qu'on appelle un IFT, un indicateur de fréquence de traitement. Donc plus on utilise de produits, plus ça fait d'IFT au niveau d'utilisation et d'exploitation. Alors si on met demi-dose, on est à 0,5. Et c'est ce qui nous permet de mesurer techniquement les traitements utilisés. Alors vous pouvez voir des pulvérisateurs passer 10 fois, si c'est des demi-doses, ça compte que 5. Voilà, donc c'est ça qui c'est la baisse de la quantité et pas forcément la baisse du nombre de passages. Donc oui. C'est vrai, en tant que riverain, des fois on comprend pas forcément.
Oui.
C'est vraiment là on mesure ce qu'il y a dedans, pas uniquement le nombre de passages. Et...
Mais ça justement, quand tu es riverain, tu le comprends pas, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui peuvent se faire avec les agriculteurs et riverains pour pouvoir un peu parler de cela, informer, éduquer quelque part.
C'est une des choses qui manque, je pense, justement dans le climat actuel. Les agriculteurs n'osent pas et puis ne savent pas forcément expliquer ce qu'ils font. Les gens retiennent aussi ceux qui sont les plus rébarbatifs et qui les renvoient un petit peu dans les roses. Mais ça manque pour moi et c'est important, et c'est pour ça que c'est important de s'inscrire dans des programmes comme des terres et des ailes, comme tous les labels un peu de qualité pour dire regardez, je fais des choses, je m'améliore et je peux le prouver en plus. Voilà, c'est important et je pense que justement on n'est pas très bon en tant
qu'est-ce que de faire des portes ouvertes, par exemple tu prévois un week-end de faire des portes ouvertes sur ton exploitation pour faire visiter, expliquer tes pratiques, pour être aussi une des solutions pour aborder avec les riverains les sujets les plus tendus.
Pour moi je pense que ce serait intéressant. Alors malheureusement il n'y a que ceux qui font de la vente directe qui y pensent.
Ah oui, le toit rosé de cognac, consommé avec modération.
Voilà, mais oui. Le problème c'est que voilà, les autres n'ont pas forcément ce réflexe et n'ont pas l'impression de la nécessité de ça. Mais je pense qu'à minima, un petit apéro sur l'exploitation juste avant le début de campagne de traitement pour expliquer voilà, ce qu'on va faire, on invite les voisins qui ont les maisons d'à côté. Voilà, on discute calmement et puis voilà, tout simplement, est-ce que si ça vous gêne si je dois traiter de matin, de bonne heure, est-ce que vous préférez plutôt le soir, plutôt est-ce que ça vous gêne si exceptionnellement je dois traiter un samedi ou un week-end, voilà, il y a des petites choses. Pour moi, c'est pas des grandes théories au niveau national qui peuvent aider à ça, et c'est vraiment chacun avec ses voisins.
Oui, c'est au cas par cas et c'est le local.
Oui, voilà, ouais. Juste aller voir son voisin et dire, alors il y a toujours des endroits où ça se passera mal, mais pour moi, c'est vraiment ça.
Oui, c'est l'échange.
Et je voulais savoir, quelles sont les innovations en marche pour la prochaine année ?
Alors, pour la prochaine année, alors moi, sur l'exploitation, on a fait deux choix drastiques. C'est déjà plus de glyphosate. Voilà, ça, c'est fini. On a encore un petit stock qu'on veut finir, là, mais plus d'achat, c'est terminé. Et plus de produits, alors qui sont classés, ce qu'on appelle CMR, donc c'est des produits qui sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Alors on utilisait très très peu et là on a trouvé une solution, donc on a fait le choix de ne plus utiliser ça non plus.
Alors c'est quoi la solution ?
Alors eh bien c'est plein de petites choses, il n'y a pas de solution miracle, mais un mélange avec des produits de biocontrôle à certaines périodes, et puis le choix de prendre un peu des risques aussi, voilà, se dire qu'il y a certaines maladies, s'il y en a un peu sur la vigne, c'est peut-être pas si grave. Alors bon, on verra, hein, si on aura peut-être des soucis, mais je pense que voilà, en mettant un peu plus cher, parce que les produits de biocontrôle sont plus chers, et en faisant un peu plus de passages, parce qu'étant donné qu'ils sont moins efficaces, il faut y revenir plus souvent, en prenant ce risque-là, on peut avancer. Voilà. Alors pour l'instant, sur la partie viticole, il n'y a pas d'impasse technique. Je sais qu'en céréales, c'est plus compliqué, parce que si on enlève certains produits les plus dangereux, il n'y a tout simplement plus rien. Donc soit on accepte de ne pas récolter, soit faut prendre son risque et le mesurer. Voilà. Donc nous, voilà, à faire, c'est de mettre des produits de biocontrôle. Alors biocontrôle, ça peut être un grand mot, mais voilà, moi j'utilise de l'huile essentielle d'orange.
Ah oui.
Voilà, qui est un produit qui détruit les champignons, donc tout ce qui
est. Vous le trouvez où ça?
C'est dans le circuit classique, par les coopératives. Maintenant, voilà, elles ont toute une gamme bio, une gamme plus conventionnelle. Voilà, ça peut être des stimulateurs de défense naturelle, ça peut être voilà, en mélangeant, faut faire des mélanges. Faut garder voilà, aujourd'hui on garde une partie de produits conventionnels parce que les produits bio uniquement et biocontrôle ne sont pas forcément faits pour être utilisés seuls. C'est-à-dire on fait un mélange à 50-50, ça permet déjà de réduire les pesticides de 50%. Y a des périodes de la vigne où on sait que voilà, pendant la floraison, la période du mois de juin, la vigne est très très sensible aux maladies. Là on sait qu'on va passer avec des produits classiques. Mais par contre, en début de saison où ça risque rien, un biocontrôle suffit, ou en fin de saison, c'est la même chose.
Quel type de maladie en juin est plus...
C'est la partie... c'est pas que les maladies sont plus fortes, c'est vraiment que la vigne est plus sensible. Parce que la période de la floraison lui demande énormément d'efforts. Et c'est comme nous, hein, quand on est en train de faire un effort, souvent, on est plus sensible. Voilà, quand on est... Parce qu'elle doit produire les fleurs, elle doit commencer à produire les graines. Et là, elle a besoin de... Voilà, faut pas qu'il y ait de manque d'engrais, de nutriments. Sinon, la moindre petite faiblesse, c'est comme un être humain. Hein. Quand l'organisme a un petit point de faiblesse, c'est là que les maladies arrivent. Donc, c'est à anticiper.
Et vous échangez donc avec d'autres agriculteurs sur les pratiques bien et moins bien de ces produits?
Oui. Justement, le réseau Défi est fait pour ça. On se retrouvait jusqu'ici... entre fermes du réseau Défi pour échanger et vraiment avancer. Donc je pense que maintenant on est tous bien avancés. Les réseaux Défi au niveau national a de bons résultats. Donc là, le gouvernement déjà pour cette partie-là a décidé d'élargir. Donc on passe de presque 2000 fermes à un réseau qui s'appelle maintenant les fermes 30 000. Donc le but c'est autour de chaque ferme du réseau Défi de créer un groupe d'une dizaine de fermes qui vont... essayer de faire la même chose. Alors ça se met en place, hein, il y en a encore pour un petit moment, mais voilà, vraiment le but c'est de tirer les agriculteurs en montrant voilà, ceux-là ils ont réussi, ils y arrivent. Alors, pas forcément au moins 50% déjà, mais d'ici quelques années ils y seront. Les autres commencent à regarder petit à petit, on va y arriver. C'est vraiment essayer de tirer tout le monde vers le haut, et je trouve ça beaucoup plus intelligent que tirer par le bas en disant allez, on interdit telle ou telle chose et on crée des gros problèmes.
Ouais, c'est plus intelligent en effet.
Et est-ce que vous tenez également compte de la nature du sol, comme ils font en Bourgogne?
Oui, alors c'est beaucoup moins détaillé en Charente, alors, parce que bon, je connais très bien la Bourgogne, j'y ai fait beaucoup de stages, ce qu'ils appellent les climats, alors des fois sur un ou deux hectares, juste une parcelle, c'est un cru, nous on n'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que pour tout ce qui est environnement et tout ce qui est travail du sol et tout ça, c'est un retour à l'agronomie et d'un secteur à l'autre, hein, de Grande Champagne à Finbois, on ne peut pas du tout faire la même chose. Le sol n'est pas du tout le même. Voilà, exemple très simple, moi il pleut 20 mm, deux jours après je peux aller recultiver mes vignes. Eux il faudra une semaine, en une semaine l'herbe elle pousse et c'est pas du tout la même stratégie. Donc c'est vrai que les pesticides c'était de la simplicité, tout le monde fait la même chose, ça marchait, on sait combien désherbant ça marche. Là, tout devient plus compliqué, tout devient plus risqué. Et en fait, s'il y a eu autant de pesticides et si c'est aussi difficile d'en sortir, c'est tout simplement parce que c'était la sécurité. On savait que voilà, il y a une attaque de mildiou, on traite et ça va mieux. Là, maintenant, il faudra ça va marcher un petit peu, plus un peu de biocontrôle, plus un peu de stimulateur de défense et peut-être que ça va marcher. On enlève une sécurité aux agriculteurs et contre rien.
Disons qu'il va falloir effectivement davantage connaître l'agronomie, son territoire, pour pouvoir enrichir ses connaissances et pallier les maladies éventuelles que l'on trouve d'un point de vue territorial.
Voilà. Et la clé de la sortie des pesticides, il n'y en a qu'une, c'est la formation des exploitants.
D'accord. Et il y a des formations d'agronomie pour les exploitants ?
Très peu.
Ah, d'accord.
Okay. Des petites formations ponctuelles sur une journée organisées par les coopératives ou la chambre ou divers organismes, mais
c'est pas suffisant.
Ça touche pas forcément tous les agriculteurs, tous ne se sentent pas concernés, c'est assez difficile. Il n'y a pas vraiment de plan pour l'instant, le seul plan, voilà, il y a le défi, le réseau Défi, mais ça n'attirera jamais tout le monde. Chacun fait ses petits plans au niveau des filières à droite à gauche, mais il y a toujours une partie d'agriculteurs qu'on ne touchera pas.
Et puis comme tu le disais tout à l'heure, la problématique d'un viticulteur ne se révélera pas pour celle d'un céréalier.
Ah bah oui, non, ça...
Donc forcément, il va falloir aussi des formations sur mesure.
Oui. Mmh. Oui, oui. Après, il y a tout un tas de programmes qui se mettent en place et les filières poussent un peu à aller dans le bon sens. Donc, il y a le label HVE qui a été créé il y a quelques temps.
Alors, HVE, pour les auditeurs,
c'est haute valeur environnementale. Mmh. Voilà. Donc, c'est un label, c'est une certification, hein, c'est un vrai label qui permet aujourd'hui de mesurer les efforts qui sont faits. Et moi, j'encourage les agriculteurs à y aller parce que c'est vraiment, voilà, ça permet de réfléchir à qu'est-ce qui a été fait sur l'exploitation, est-ce qu'on est bien, pas bien, est-ce que... Il y a des choses qu'on devrait améliorer. Et puis, une fois que c'est fait, qu'on a obtenu cette certification après l'audit, on peut dire, bah, regardez, moi, je fais des efforts et c'est mesuré, c'est quantifié. Parce qu'on entend souvent les agriculteurs, on le dit tous, moi, je fais de l'agriculture raisonnée. Bah, au fond, ça ne parle pas à grand monde. Et puis, le dire, c'est bien. Le prouver, c'est mieux. Mmh. Voilà. Et maintenant, les filières et les consommateurs sont très demandeurs de ces labels. Mmh. Voilà, pour le cognac, par exemple, l'objectif, c'est que 50% des viticulteurs soient certifiés en 2025. Donc, ça fait, ça fait un défi assez élevé.
Oui, c'est un défi qui est imposé un petit peu par les maisons de négoce, qui insuffle, en fait, cette démarche.
Oui, c'est ça. Alors, il y en a eu certaines qui vont l'imposer à un moment ou à un autre. D'autres, c'est plus... il y en a une qui donne une prime de 30 € par hectolitre à ceux qui sont HVE, et donc là tout de suite, quand on est agriculteur, on y réfléchit différemment.
Forcément, tout à fait.
Sandrine, juste une petite aparté, une auditrice qui vient nous appeler, Henriette de Torsa, qui félicite justement Julien de traiter ses vignes comme ça avec de l'huile essentielle d'orange. Voilà, et elle vous félicite et elle trouve ça formidable.
Super, en plus ça sent bon. Hein.
Oui, en plus, oui, ça c'est sûr. Ben, merci d'avoir appelé pour...
Julien, on va se dépêcher parce que c'est bientôt midi. Oui. Est-ce que vous parvenez à sensibiliser vos collègues viticulteurs et comment est-ce accueilli et perçu?
Alors, il y a toujours une partie de... C'est comme dans tous les métiers, il y a une partie qui est prête à innover, à avancer comme toujours un temps d'avance et vouloir faire mieux. Et puis après, il y a toujours une partie un peu conservateur, un peu râleur... qui eux seront beaucoup plus difficiles à faire avancer, et c'est comme je le disais pour mes couverts, il y en a qui trouvent ça super, et puis d'autres disent les vignes sont un peu envahies dans l'herbe, qu'est-ce que tu fais, et cela, ça sera beaucoup plus difficile à toucher. Alors justement, peut-être s'il y a un intérêt économique à faire mieux, c'est le seul moyen qu'on aura d'avancer, parce que dire à un éleveur qui n'arrive pas à se tirer de salaire, va falloir acheter un matériel qui protégera mieux la nature, il va répondre et moi dans tout ça, est-ce que je vis mieux ou pas? Donc la solution sera économique. Sans moyens, on n'avancera pas, on ne fera pas avancer tout le monde. Il y aura toujours qui feront passer ça avant, et tant mieux, mais les autres, il faut qu'ils y voient un intérêt.
Ce qui peut s'entendre, absolument. Julien, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui seraient intéressées à découvrir ou même à venir travailler en viticulture?
Alors, un message à passer, mais oser déjà venir en viticulture. Il y a énormément d'opportunités, surtout dans le cognacé en ce moment. Il y a plein de choses. Voilà, faut être curieux, faut pas avoir peur d'être dehors. Moi, j'ai deux salariés qui ne connaissaient pas du tout l'agriculture avant d'arriver sur l'exploitation, pas du tout. Il y en a un qui était technicien dans une grande surface et l'autre qui est une petite dame qui vendait du pain. Donc faut oser, faut venir, c'est à la portée de tout le monde si on a de la bonne volonté et puis si on est curieux. Donc il y a plein de... faut pas avoir peur d'être dehors, mais bon, pas pire que les autres métiers.
Oui, c'est la première contrainte, on va dire.
Voilà,
hein,
mais je veux dire, c'est pas pire qu'un employé communal, un couvreur ou...
Un maçon, oui, c'est sûr.
C'est pas physique, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas physique. Oui, c'est technique et c'est minutieux, mais c'est pas physique.
Voilà, c'est ça, c'est très technique. Et comme tu le disais, justement, avec la modernité, le machinisme, ça permet aux femmes d'intégrer ce type de métier, justement, aujourd'hui. Par rapport à la taille de la vigne, aujourd'hui, on a des sécateurs électriques, donc c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'adhérer à ce type de métier, et aussi de conduire le tracteur, parce qu'on conduit des voitures, des remorques, que conduire le tracteur, surtout viticole, c'est des petits tracteurs.
Non, il n'y a pas de souci.
Voilà,
oui. Et même messieurs agriculteurs, oser embaucher des femmes.
Oui,
c'est beaucoup plus minutieux.
Absolument, oui.
Il y en a de plus en plus, d'ailleurs.
Il y en a de plus en plus, avec le machinisme, l'automatisation. C'est vrai que de plus en plus intègrent ce type de métier.
Sandrine et Julien, on va vous remercier d'être venus donc dans nos studios ce matin.
Merci.
Ça a été vraiment un très grand plaisir de t'accueillir parce que c'était la toute première, c'était pas évident.
De le faire ensemble,
oui. De le faire ensemble, mais ça m'a fait plaisir énormément.
Moi aussi.
Julien, on va vous remercier d'être venu, bien sûr, sur RDC. C'était un grand plaisir également. Donc, cette émission sera en podcast dès demain sur le site internet. Vous pourrez la consulter, vous la réécouter, vous la télécharger même, parce qu'on peut la télécharger. Et Sandrine, je vous te donne rendez-vous donc au mois prochain.
Au mois prochain, on n'a pas encore fixé la date.
On va la trouver, oui. Il n'y a pas de souci. Et bien sûr, bonne fête de fin d'année, Sandrine.
Bonne fête de fin d'année, Jean-Marc,
et
bonne fête de fin d'année
on
à tous
nos auditeurs. On va
essayer,
parce que c'est très proche.
Oui, ça arrive
vite. C'est très proche. Julien, bon vent, bon courage pour la suite, pour votre exploitation.
Merci, on retourne tailler. Il fait beau, donc c'est super.
C'est la taille en ce moment.
Oui.
Voilà, bon courage et
merci.
Voilà, et puis bon vent.
Au revoir.
Au revoir.